Chapitre 28. 2 octobre 1998, 13h11. Mathilde de Carville tira doucement le double rideau et observa par la fenêtre si sa petite fille exécutait ses ordres. Marc regarda dans la même direction. Il s'arrêta un instant sur la main ridée, puis, à travers les fines mailles du tulle blanc qui tombait devant la vitre, ses yeux embrassèrent le vaste parc vert et ocre. La roseraie semblait baignée dans l'ambiance ouatée d'un mauvais film de genre, décor bourgeois, flou, désuet et ton pastel. Malvina passa au loin, sur l'allée de gravier rose, poussant nerveusement son grand-père. La tête de l'infirme avait dû lentement glisser sur le chemin chaotique, son cou se tordre progressivement. Ses yeux fixes s'ouvraient béants vers le ciel blanc, ou vers la cime des arbres peut-être, vers le vol lent des dernières feuilles rousses du grand érable. Pas une fois, Malvina ne se pencha vers son grand-père pour le redresser. Mathilde attendit quelques secondes. Malvina et Léonce de Carville s'éloignaient le long des rosiers en direction de la serre et du belvédère sur la Marne. Lentement, elle referma le double rideau. La pièce fut à nouveau baignée d'une légère pénombre où luisaient les silhouettes blanches et immobiles des meubles recouverts de draps et la laque immaculée du Petrov, bien entendu. Mathilde de Carville se retourna vers Marc.
« Marc, vous permettez que je vous appelle Marc ? Mon âge me l'autorise, je pense. Puisque vous êtes venu, j'aimerais vous poser une question, une simple question. Lorsque vous avez revu Lily ces jours derniers, depuis qu'elle est majeure, Lily portait-elle un bijou, une bague ?»
Marc s'était rapproché du piano. Ses doigts couraient sur le clavier sans appuyer sur les touches. Pourquoi mentir ? Oui, elle l'a porté, une bague. Un saphir clair. Aucun sourire ne s'afficha sur le visage de Mathilde de Carville. Aucune manifestation de triomphe, aucune jubilation. Marc trouva cela étrange. Elle réagissait comme un flic qui n'ose pas accepter les aveux d'un truand. La main de Marc glissa sur le piano. Le Moser était toujours posé sur le bois blanc, à 80 cm de ses doigts. Par la fenêtre, Marc chercha à repérer à nouveau Malvina dans le parc. Mais le rideau tiré ne lui dévoilait qu'un trait de lumière pâle.
« Elle est folle !»
fit soudain la voix calme de Mathilde de Carville.
« Ma petite fille est devenue presque folle. Vous vous en êtes rendu compte, je présume ?»
Marc ne répondit rien. Mathilde continua.
« Et vous, Marc, qu'en pensez-vous ?»
Rien. Marc attendait.
« De la folie, Marc. Je vous parle de la folie. Qu'en pensez-vous ?»
Les doigts de Marc dansaient sur les touches d'ivoire pour éviter que leur tremblement soit trop perceptible.
« Je vous parle, Marc !»
insista la voix glaciale de Mathilde de Carville.
« Je parle de vous, tout comme Malvina, votre petit cerveau d'enfant. As-tu affronté le doute ? Qu'est-il arrivé à votre petite sœur ? Vivante ? Morte ? Vous en êtes-vous mieux sortie que Malvina, au final ?»
Marc leva la tête. Sans prononcer un mot.
Oh, quelle torture, n'est-ce pas, Marc ? Toutes ces années, ne pas savoir quel sentiment vous éprouvez pour la fille que vous aimez le plus au monde. S'agit-il d'un chaste amour fraternel ? Ou s'agit-il d'un brûlant amour charnel ? Comment grandir avec ce doute ?
Le ton avait changé. Sa voix se faisait plus forte, menaçante. Mathilde de Carville s'avança vers le piano.
Pour vivre, pour survivre, on s'arrange avec ses sentiments, n'est-ce pas, Marc ? Toutes ces années d'enfance, le petit Marc recherche l'affection de la petite Émilie, adorable petite sœur. Puis le petit Marc grandit. Pourquoi ne pas profiter du doute ? L'occasion est trop belle, non ? Enterrer la petite Émilie et tomber amoureux de Lise Rose, la belle et riche héritière des Carville.
Les doigts de Mathilde de Carville se rapprochaient du revolver. Sa voix montait encore en puissance.
« J'ai souffert, Marc. Mon Dieu, que j'ai souffert. J'ai expié toutes ces années. J'ignore quelle faute, mais je l'ai expié tout de même. Ma revanche possède un goût amer, Marc. Croyez-moi. »
Marc toussa. Aucun autre son ne parvenait à sortir de sa gorge. Mathilde se tenait maintenant debout à moins d'1 mètre devant lui. De quelle revanche parlait-elle ? Soudain, Mathilde de Carville se détourna. La vieille femme se dirigea vers la bibliothèque, dans le coin opposé de la pièce. Son ombre recouvrit d'un éphémère voile gris le Petrov. Elle attrapa sans hésiter un livre épais dont Marc ne put lire le titre, l'ouvrit et saisit une enveloppe bleue lavande. Mathilde de Carville avança à nouveau dans la pièce.
« Grand-duc s'était rapproché de vous, Marc. Il était même devenu un ami de la famille Vitral. Mais ne soyez pas dupe, il restait mon employé. Il me faisait son rapport presque toutes les semaines, du moins les premières années. » Au bout de 5 années d'enquête, il n'y avait pratiquement plus aucune piste à creuser. Au bout de 8 ans, il n'en restait strictement aucune. »
L'image du cadavre de Grand-Duc passa furtivement devant les yeux de Marc. Mathilde posa l'enveloppe bleue sur le piano, juste à côté du revolver.
« Strictement aucune, sauf une. La dernière, la seule. » Nous étions en 1988.
Mathilde se retourna encore. Cette femme ne s'arrêtait donc jamais de se déplacer ?
Marc, nous avons le temps. Puis-je vous proposer quelque chose à boire ?
Marc hésita, surpris. Tout ce qu'il vivait, découvrait depuis qu'il était arrivé à la roseraie, lui semblait préparé, calculé, comme si sa venue était attendue. Cette pièce lugubre, mal éclairée. Le piano blanc, le Moser posé dessus, la disparition de Malvina et de Léonce de Carville, dans le jardin, ou ailleurs. Le rideau dissimulait tout ce qui se passait à l'extérieur. Oui, bafouilla Marc malgré lui. Pourquoi pas ?
Une infusion ? J'ai d'excellents mélanges aromatiques que je cultive moi-même.
Marc hocha la tête. Mathilde de Carville s'absenta de longues minutes, laissant Marc seul, juste à côté de l'enveloppe bleue, du Moser. C'était voulu, bien évidemment, de la douce torture, la revanche de Mathilde. Marc se forçait à respirer lentement, guettant les premiers signes de crise d'agoraphobie. S'il n'avait curieusement éprouvé aucun sentiment de danger devant ce petit monstre armé de Malvina, la mise en scène de la vieille Carville provoquait en lui une émotion inverse. Il commençait à ressentir le picotement familier du sang se ruant vers ses jambes, ses bras, ses mains. Mathilde revint, les bras chargés d'un petit plateau, de 2 tasses, une infusion dans chaque. Elle versa l'eau chaude, tendit une soucoupe à Marc.
« Buvez, Marc. »
Marc hésita. Mathilde lui lança un sourire franc.
« Je ne vais pas vous empoisonner. »
Il trempa ses lèvres. C'était bouillant.
« Marc, »
fit Mathilde de Carville,
« je ne vais pas vous faire souffrir plus longtemps. »
Marc but une gorgée. Le goût lui plut. Cette vieille sorcière cultivait donc elle-même ses herbes folles dans son immense jardin secret.
« Au début de cette décennie, »
continua Mathilde de Carville,
« vous le savez aussi bien que moi, il est devenu possible de connaître la vérité. » Un simple test ADN. C'était infaillible. Les laboratoires anglais, moyennant beaucoup d'argent, un peu de salive ou de sang, vous donnaient des résultats en quelques jours. J'ai encore attendu quelques années avant de prendre la décision. La religion catholique ne fait pas forcément bon ménage avec la génétique. Vous comprenez, Marc. J'ai longtemps hésité. J'ai pris ma décision il y a 3 ans, lorsque Lily en avait 15. C'était l'ultime mission de Grand-Duc, en quelque sorte. Grand-Duc s'est chargé de tout. Il avait des relations dans la police scientifique française. Je lui ai fourni l'argent. Une telle démarche n'avait rien de légal. Il a récupéré un échantillon de sang de Lily le jour de son anniversaire. Je lui ai donné le mien, celui de mon mari, celui de Malvina. C'était si simple de savoir.
Marc sentait ses jambes se dérober sous lui. Il but encore une gorgée de tisane. Le goût, au fur et à mesure de l'ingestion, en devenait de plus en plus acide. Il se souvenait, bien entendu, du jour des 15 ans de Lily. Crédule Grand-Duc était invité, comme chaque année. Il lui avait offert un soliflore en verre. Le soliflore était si fin, ébréché peut-être, qu'il s'était brisé dès que Lily l'avait pris entre ses doigts. Lily s'était coupée à l'index. Grand-Duc était désolé. Il avait ramassé les morceaux de verre, bafouillant des excuses. Grand-Duc avouait-il son double jeu dans les prochaines pages de son cahier ? Il vérifierait. Sa gorge le brûlait. Pour l'instant, il n'avait qu'une envie, attraper cette enveloppe bleue, l'ouvrir, lire. Mathilde de Carville lui lança un nouveau sourire étrange.
« Marc, les résultats sont là, dans cette enveloppe. Je les connais depuis 3 ans maintenant. Je suis la seule. Vous m'avez rendu service en venant, Marc. Vous allez prendre cette enveloppe. »
Marc se brûla le palais d'une dernière gorgée. Il saisit, les doigts tremblants, l'enveloppe bleue lavande. Le visage de Mathilde de Carville grimaça, triomphant.
« Mais vous n'allez pas l'ouvrir, Marc. Vous allez apporter cette enveloppe à Nicole Vitral. C'est une affaire entre elle et moi depuis des années maintenant. Si quelqu'un d'autre doit connaître la vérité aujourd'hui, c'est elle. »
Un long silence enveloppa la pièce, comme un givre matinal glaçant les draps. Marc glissa lentement l'enveloppe bleue dans sa poche. « Qu'est-ce qui vous prouve que je ne vais pas l'ouvrir aussitôt sorti d'ici ?»«
Vous êtes un petit garçon sage, non ? Obéissant. Vous ne trahiriez pas votre grand-mère. C'est à elle que je destine ce courrier. »«
Ce sont vos règles ? Qu'est-ce qui m'oblige à les suivre ?»«
Vous les suivrez, Marc, bien entendu, parce que vous êtes persuadé de déjà connaître la réponse contenue dans cette enveloppe. »
Marc étouffait, sa gorge et son estomac le brûlaient. Mathilde de Carville insista.
« Qu'avez-vous à craindre, Marc ? N'est-ce pas ce que vous souhaitiez ? Lise Rose a survécu, Émilie est morte. Seule Nicole aura un peu de peine, certes, mais le bonheur de son petit-fils la consolera, non ?»
Marc sentait monter en lui la crise d'agoraphobie. Il ne parvenait pas à contrôler sa respiration, comme si l'infusion bouillante lui dévorait le ventre. Mathilde de Carville éclata d'un terrifiant rire forcé.
« Vous espérez quoi, au juste, Marc ? Épouser Lily ? Qu'elle prenne à sa majorité le nom de Lise Rose de Carville ? Devenir mon petit-fils ? Un mariage en blanc à Notre-Dame ? Mon mari aura beaucoup de mal à conduire sa petite-fille jusqu'à l'hôtel, mais on s'arrangera. Et ensuite ? Vous viendrez avec Lise Rose prendre le café le dimanche, jouer aux échecs dans le parc en regardant couler la Marne pendant que je parle gaufres et frites avec votre grand-mère. Quelle pitié, Marc. Quel gâchis. »
Marc essaya d'attraper sa tasse. Elle lui tomba des mains et se brisa sur le tapis, éclaboussant les pieds du piano.
« Donnez cette enveloppe à votre grand-mère, Marc. » Si elle le souhaite, elle vous fera lire ensuite le résultat de ce test ADN. Dites-lui aussi que je ne regrette rien, surtout pas l'argent que j'ai versé. Je suis en paix avec moi-même. »
Les yeux de Marc se brouillaient, le sang dans ses artères irriguait son corps tel un oléoduc en flammes. Ses jambes ne parvenaient plus à le porter, comme deux tours rongées par un incendie. Ses mains se crispèrent sur le clavier du Petrov. Elles ralentirent au dernier moment sa chute, dans un sinistre cri de notes désaccordées.